Les nuits que l'on choisit. Chronique judiciaire en France. D'Élise Costa, lue par l'autrice. Le procès est fini et je devrais me lever, rentrer chez moi et écrire. Ce n'est qu'un travail, pas vrai. Mais aucun chroniqueur judiciaire ne sait quand son travail se termine vraiment. Il peut toujours se passer quelque chose. Un cri déchirant à faire envoler les oiseaux. Un déferlement de joie sur le parvis du palais de justice. Des larmes de soulagement au micro des journalistes. Jamais un revirement de verdict. Et pourtant, je pense, ils vont tous revenir. Un homme n'est pas condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec si peu d'éléments. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Je connais les mécanismes de la stupeur, du déni et des pensées irrationnelles. Je les ai vus de mes propres yeux. Cela fait 3 ans que je les retranscris dans des articles de la longueur de fleuve. Je les identifie si bien chez les autres que j'en oublie leur principale singularité. Ils sont indétectables par la personne concernée. Tout comme je ne reconnais pas le déni qui me traverse. Notez cette remarquable compensation. Je préfère me jouer une autre scène. Les magistrats, les gendarmes et les jurés vont revenir. L'huissière d'audience remettra sa robe à la hâte, ses talons claquant contre le sol. Les traits tirés, les jurés reprendront place dans leur siège en velours gris. Le président de la cour d'assises, accompagné de ses 2 assesseurs, demandera à l'accusé de se lever et, comme un seul homme, les policiers de l'escorte se mettront à leur tour debout dans le box pour l'encadrer. Alors, la cour expliquera s'être trompée. Elle dira son empathie pour les parties civiles, sa volonté de les aider à trouver la paix et son désir d'en finir au plus vite, qu'importe le coupable. Les jurés voulaient juste rentrer à la maison. 2 semaines de procès d'assises, c'est long, pour ne pas dire interminable. Juste avant qu'ils ne partent délibérer, l'avocat général avait regardé les jurés un à un. « Mesdames et messieurs, au cours de ces débats, j'ai cru lire une question sur vos visages, pourtant impassibles et neutres comme il se doit pour tout juge, dans le clair-obscur de cette salle d'audience qui est tellement à l'image de ce dossier. Que feriez-vous à notre place, monsieur l'avocat général ?» Et je vous répondrai très exactement ceci. En l'absence de preuves suffisantes de sa culpabilité et du doute raisonnable que cela induit sur celle-ci, et pour cette seule raison qui renferme toute la mesure de notre devoir commun, vous devez répondre négativement à la question qui vous est posée, celle de la culpabilité de Laurent Dejean, et par conséquent, l'acquitter. L'avocat général s'était rassis, les yeux creusés. Par le passé, je l'avais vu foudroyer des accusés dans le box. Je l'avais entendu requérir des réclusions criminelles à perpétuité, parce qu'il le fallait. Et il m'était même arrivé d'entendre un faible rire sarcastique s'échapper de sa gorge, parce qu'il n'avait pu le contrôler. Mais ce matin, émergeant de sa robe rouge bordée d'hermine, son front était brillant d'une lueur que je ne lui avais jamais vue. Dans cette affaire, le doute devait profiter à l'accusé. Ce n'était pas l'issue la plus satisfaisante. C'était la plus juste. Le président de la cour d'assises avait alors lu d'une voix solennelle l'article 353 du Code de procédure pénale sur l'intime conviction, la loi qui prescrit aux jurés de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé. Seulement, des preuves à charge contre Laurent Dejean, il n'y en avait pas. Pas d'ADN, pas d'aveu, pas de mobile, et des témoignages changeant au fil des auditions. Peut-être que les gendarmes avaient attrapé le bon type, peut-être pas. Il n'y avait aucun moyen de le savoir avec certitude. À la lecture, le président aurait dû appuyer sur les mots « sur leur raison ». S'il l'avait fait, les choses se seraient passées autrement. Les jurés auraient mis de côté leurs émotions, la douleur des proches de la victime et la syntaxe atypique de Laurent Dejean. Le verdict aurait été différent. Je ne sais depuis combien de temps je suis assise sur le banc en béton. Assez pour voir que personne ne revient. À travers les grandes baies vitrées donnant sur le parking extérieur, le soleil a maintenant glissé dans le caniveau. Je vois le dernier juré monter dans sa voiture, un léger sourire aux lèvres. Peut-être a-t-il le sentiment du devoir accompli, à moins qu'il ne pense à la personne qui l'attend chez lui. Quand sa voiture démarre et tourne au coin de la rue, c'est vraiment fini. La salle des pas perdus s'est vidée. En moi, Les bruits se sont tus aussi. La phrase « Faites qu'ils reviennent » a cessé de tourner en boucle dans ma tête. Dieu existe toujours pour ceux qui n'ont plus d'autre recours. Pour Laurent Dejean, il y aura un appel dans 2 ans, 1 an et demi au mieux. Dehors, les lumières de la rue s'allument. Je me lève enfin. Au bout du compte, même les chroniqueurs judiciaires finissent par rentrer chez eux. À la lumière de mon bureau, j'écoute la maison endormie. Mes yeux se posent sur ma bibliothèque. Sur l'étagère de gauche, un portrait de Dolly Parton est posé contre une machine à écrire, semblable à celle que ma mère avait dans notre appartement autrefois. De part et d'autre du cadre sont entassées des ordonnances de mise en accusation, des procès-verbaux surlignés et des dizaines de calepins de notes parsemés de marque-pages sous la forme de post-it colorés ou de tickets de cartes bancaires. La vision de cette montagne de papier m'apaise. Elle est un rempart. Un simple coup d'œil me suffit à deviner quel cahier a servi à quel dossier. Après 4 ans à écumer les palais de justice de la France entière, j'avais trouvé le carnet idéal, le Rodia tissé, couverture souple, ligné 80 grammes, format A5. Les stylos Bic étaient des stylos de secours, car le chroniqueur judiciaire n'a jamais assez de stylos. Mais mon préféré était le Muji à encre gel noir, bille 0,5. Dans un de mes premiers carnets à spirale, j'avais noté cette phrase. Dans ce milieu, au début, on se méfie de vous. Ensuite, on vous tolère. Et à la fin, on vous accepte. Le monde judiciaire était un sacerdoce, mais il en valait la peine. Les insomnies, l'alcool, la paranoïa, les doigts rendus gourds par la prise de notes frénétiques, les vertèbres brisées par les trajets en train, les lits d'hôtels miteux et les bancs des palais de justice, car de Caen jusqu'à Nice, ils sont uniformément raides et inconfortables. Tout ça en valait la peine. Les certitudes rendent fous, disait Nietzsche, et la plus importante récompense qu'offre ce métier, c'est le doute. Je sais désormais que rien de l'existence n'est simple, et encore moins évident. Le doute est autant un calvaire qu'une bénédiction. En temps normal, je préfère attendre que le procès se décante avant d'écrire mon papier. Mais ce n'est pas une règle absolue. Il arrive que les conditions soient réunies pour composer d'une traite. Le calme et la fraîcheur de la nuit en font évidemment partie. Avec un peu de chance, je pourrais envoyer mon article sur le verdict au bureau de la rédaction d'ici à quelques heures, pour espérer une publication dès le lendemain. Il viendra clore ma série sur le procès de la joggeuse de Boulogne, et je pourrai passer à autre chose. Ça devrait aller vite. Il n'y a pas de morale dans cette affaire. Les morales dans les dossiers criminels, ça n'existe pas. Pas plus que les saints ou les démons, les héros ou les monstres. Comme à chaque fois, c'est une histoire de gens ordinaires.